Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 22 novembre 2023. On parle de pivot depuis des semaines, peut-être même depuis des mois. Pivot de la Fed qui doit passer de hawkish à dovish et pivot des marchés qui doivent inévitablement arrêter de monter à un moment ou à un autre. Je veux bien que l'on me dise que l'inflation est terminée, que les taux vont baisser et que Nvidia, ils font tout tout juste, mais à un certain moment, on ne peut pas aligner les séances de hausse comme si nous étions dans une hausse permanente drivée par une économie indestructible, plein emploi et la paix dans le monde. Il doit quand même y avoir des journées où l'on baisse, surtout pour un marché qui était au bout de sa vie il y a à peine plus de 3 semaines. Alors je ne sais pas si le pivot des marchés c'est ailleurs, mais en tous les cas, il a semblé qu'à un certain moment, les doutes nous assaillaient à nouveau. Non parce que récemment, nous avons décidé que l'inflation allait continuer à baisser, que la Fed allait également non seulement arrêter de monter les taux, mais en plus commencer à envisager une baisse de ces mêmes taux. Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de récession et que la Fed serait toujours là pour nous aider, pour nous aimer. Mais à aucun moment nous avons écouté ce que pensait ou ce que disait la Fed. Il faut dire que depuis que le CPI a été publié, la Réserve fédérale n'avait plus parlé d'une seule voix, mais s'était fait entendre individuellement, et ça, c'est pas crédible pour nous, les stars de la finance. Hier soir, les minutes du FOMC meeting qui ont été rédigées avant la publication du CPI ont tout de même montré un visage un peu plus crispé de la part de la Fed. Alors que nous imaginions que les gars étaient super décontractés et qu'ils avaient confiance en eux et en l'économie américaine, en lisant les minutes, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient sûrs de rien et qu'ils étaient perclus de doutes jusqu'à l'os. Loin de notre confiance absolue en ces marchés qui ne sont censés que monter en direction du firmament. Une chose était certaine, l'équipe de Powell n'est pas encore en party mode. Pour ça, il y a encore du boulot, des risques, et il se refuse à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de l'avoir empaillé, et d'être certain que son fantôme ne reviendra pas nous hanter ces prochains temps. Le message des minutes pourrait se résumer ainsi, qui va piano, va salo et va lontano. Ce qui démontre encore une fois qu'ils ont la peur au ventre, la peur que l'inflation puisse soudainement repartir à toute vitesse, d'où leur intention de garder les taux élevés encore un moment pour être certain qu'elle est morte, l'inflation. Le problème, c'est que pendant que la Fed se la joue prudence et mère de sûreté, nous, aka les stars de la finance, ça fait 3 semaines que l'on est plutôt on est les champions, et qu'on était déjà en route pour fêter ça à Ibiza, quand on a entendu que la Fed était un peu moins euphorique et un peu plus timorée. Gros coup de froid, mais pas assez pour que l'on décide de tout vendre et de retourner hiberner devant un feu de cheminée avec un grog avec plus de rhum que de grog dedans. Mais toujours est-il que comme nous avions quand même prévu une bonne baisse des taux en juin, on est en droit de se demander si les minutes d'hier, bien qu'elles aient été rédigées avant que l'on connaisse les tenants et les aboutissants du CPI d'octobre, on peut se demander si ces minutes ne démontrent pas une certaine angoisse de la Fed, l'angoisse de se détendre trop vite alors que l'inflation est encore tapie dans les bois avec le goût du sang encore dans la bouche. Du coup, on a décidé d'en finir avec la hausse éternelle et se donner le temps de réfléchir. Et puis ça tombait plutôt bien parce qu'apparemment, il ne va plus rien se passer pendant les 3 prochains jours, ou presque, étant donné que les ricains vont passer plus de temps à bouffer et à picoler qu'à se concentrer sur les desiderata et les craintes de leur banque centrale. Il restait plus qu'à se farcir les chiffres de Nvidia après la clôture, et là aussi, c'était psychologiquement intéressant. Je me dis ça à peu près 3 fois par semaine. J'aurais mieux fait de lire des bouquins de psychologie que des bouquins d'économie, ça m'aurait apporté beaucoup plus, professionnellement parlant. Et puis je me souviens que j'ai jamais lu de bouquin d'économie non plus. Ou alors la préface, et comme je me suis endormi après, ça compte pas vraiment. Toujours est-il, et qu'hier soir, Nvidia a publié des résultats qui ont pulvérisé les attentes. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, ils ont tellement pulvérisé les attentes que j'en suis presque à me demander s'ils ne trafiquent pas la comptabilité. Regardez plutôt. Le chiffre d'affaires s'est établi à 18,1 milliards contre 5,9 milliards de dollars il y a un an, alors que le consensus tablait sur 16,2 milliards. Les ventes pour le trimestre ont établi un nouveau record dépassant les 13,5 milliards de revenus que Nvidia avait affiché pour son second trimestre. Le domaine des data centers a vu son chiffre d'affaires augmenter de 279% par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 14,5 milliards de dollars et dépasser le consensus qui était de 13 milliards. Pourtant, le titre qui était très volatile after close a tout de même terminé en baisse de 1,7%. Alors vous me direz, pour un titre qui a pris 30% en 3 semaines, 1,7% c'est pas la fin du monde. Et c'est vrai. Mais il est intéressant de noter que certains intervenants estimaient qu'une bonne partie de toutes ces bonnes nouvelles étaient déjà pricées et se reflétaient dans le prix de l'action qui était au plus haut de tous les temps avant la publication des chiffres. Et puis, il y a une certaine crainte du côté de Nvidia et des analystes qui la couvrent, c'est l'avenir des exportations chinoises, ou plutôt l'absence de ces dernières. Suite aux nouvelles réglementations mises en place par les clowns de Washington, on pourra donc dire que Nvidia a pulvérisé les attentes, mais que la plupart des annonces étaient déjà dans les prix, d'où le fait que ceux qui comptaient sur Nvidia pour donner un second souffle au rallye de fin d'année en sont pour leurs frais, pour le moment en tous les cas. Ce matin, en Asie, on a donc décidé de ne rien faire. Le Nikkei est légèrement en hausse, pendant que le reste est légèrement en baisse. La Fed est dans tous les esprits, et ici comme ailleurs, on est en train de processer le fait que la Fed n'est pas tout à fait prête à baisser les taux, mais qu'elle ne devrait pas non plus les monter de sitôt, à moins qu'il y ait une résurgence haussière du côté de l'inflation, ce qui est la grande peur de la Fed. Ils sont devenus inflationophobes. Oui, je sais que le mot n'existe pas, mais je crois qu'ils le mériteraient. Toujours est-il que la confiance absolue de voir baisser les taux avant juin a été mise en doute par les minutes d'hier. Il n'y a donc pas de raison de tout vendre là tout de suite, mais les raisons de continuer à acheter comme des fous semblent un tout petit peu limitées. Sans compter que demain, c'est Thanksgiving, que la plupart des traders vont enfiler leur pull moche avec un renne qui a un nez qui clignote sur le devant pour aller voir la famille pendant 5 jours, ce qui devrait réduire considérablement les volumes et l'intérêt de leurs finances et faire monter le niveau du taux de cholestérol. Le pétrole est à 77,77, l'or est à 2 000 $ et le bitcoin se traite à 36 400. Dans les nouvelles du jour, on décortique les chiffres de Nvidia, on se repasse le film des minutes du FOMC meeting, mais en plus on apprend qu'Israël et le Hamas ont conclu un cessez-le-feu en échange de la libération de 50 otages sur les 240 détenus, que les Américains ont bombardé les positions du Hezbollah en Irak, que les hedge funds qui sont short ont perdu 43 milliards depuis le début du mois, que le prix du blé repart à la hausse à cause de la guerre en Ukraine. Tiens, ça faisait longtemps que les infections du Covid repartent à la hausse, mais que c'est pas grave, parce que la dernière version du dernier variant à la mode n'est pas dangereuse. Je ne sais d'ailleurs même pas pourquoi la presse en parle et que comme un con, je relaye l'information. Du côté de la magnifique justice américaine, on notera que le patron de Binance, connu sous le nom de CZ, va quitter son poste après avoir plaidé coupable devant la justice américaine. Coupable de tout ce que la SEC lui reproche, et que pour éviter la tôle, la disgrâce et d'aller casser des cailloux au bord de la route, il a accepté de payer une amende de 4 milliards. Mais on se calme, ne paniquez pas, ne mettez pas en place une cagnotte litchi pour l'aider à payer après le paiement de l'amende, il devrait tout de même lui rester quelque chose comme 6 milliards. D'argent de poche. Ça va donc bien se passer. On notera encore l'arrivée d'un nouvel ETF sur le marché pour tirer parti de l'engouement pour la perte de poids suscitée par l'Ozempic. HRTS, c'est son nom, se base sur une liste d'entreprises impliquées dans des traitements anti-obésité et cardiovasculaires. Et Goldman Sachs sont bullish sur la Chine. Bullish modéré, mais bullish quand même. Et puis on terminera avec cette phrase de Lagarde qui disait hier que la BCE n'en avait pas fini avec son combat contre l'inflation. Je ne sais pas comment faut le prendre, mais dans le doute, pas bien. Côté chiffres du jour, on est en mode vacances, mais il y aura tout de même les durable goods et la confiance du consommateur selon l'université du Michigan. Et puis ensuite, ça sera dinde et gravy pour tout le monde. Enfin, pas pour nous parce que les Américains n'ont pas encore réussi à exporter cette tradition-là. Mais c'est une figure de style. Pour le moment, les futurs ne font rien et on n'attend plus rien. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et moi je retourne me coucher. Et on se voit demain pour brasser de l'air et faire comme si c'était vraiment important d'avoir été là aujourd'hui. À demain et très bonne journée.